les 7 différences entre nos 3 églises. Quelles seraient-elles? Est-ce que vous pouvez m'aider? 7 différences entre... Bon, on ne devrait pas avoir trop de mal à en trouver quelques-unes.
La taille.
La taille. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée?
La ville.
La ville, le code postal, on peut pousser l'idée. Le pasteur, le nombre de chaises. J'ai vu qu'on n'a pas la même orientation géographique de nos locaux. J'ai regardé sur Google Maps hier. Voilà, c'est plein nord là, c'est plein nord. Voilà, j'ai vu, on n'a pas non plus la même couleur de site internet. Je suis allé vérifier. Et aujourd'hui, je me dois de compléter dans le fait que Bernard a sorti la cravate. Jean-Luc a chemise à fleurs. Et moi le polo. Bon voilà. Vous en déduirez ce que vous en voulez. Je note. À l'inverse, si on devait jouer au jeu des 7 ressemblances, je suppose qu'on devrait y arriver également. Alors on va pas faire le jeu ensemble, mais on va plutôt se mettre à l'écoute d'un texte qui va nous encourager à nous ressembler au moins sur 4 critères. Alors, pas 7, mais on va déjà en faire 4 aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Un texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, qui va nous encourager à être des églises qui se ressemblent sur 4 points, à partir du verset 23, Matthieu 16, à partir du verset 23. Et ma prière est qu'on puisse être des églises qui se ressemblent en étant des églises qui confessent le nom de Christ. Hop, des églises qui confessent le nom de Christ, des églises qui sont construites par Christ, et des églises qui comprennent le rôle de Christ, et des églises qui suivent l'exemple de Christ. Alors je vous propose de lire donc Matthieu 16, à partir du verset 13, et je lis dans la version second 21. Jésus arriva dans le territoire de Césarée et de Philippe, et il demanda à ses disciples, « Qui, d'après vous, qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit Jésus. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Et dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, devait souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et lui dit, se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Première partie, donc en Matthieu 16, nous sommes à peu près à la moitié du ministère de Thérèse de Jésus, et jusqu'à là, Jésus n'a pas chômé. Alors, il a prêché à de nombreuses reprises, il a enseigné les foules, il a guéri des malades, il a nourri des milliers d'hommes et de femmes, il a déjà fait face à une première opposition déjà. Jésus n'a pas eu le temps de s'ennuyer, et je suppose que les disciples qui le suivaient derrière non plus. Et c'est justement en arrivant dans un nouveau territoire, celui de Césarée, au nord justement, que Jésus prend le temps de faire une pause. Alors peut-être pour se reposer, il avait peut-être chaud un peu comme nous, mais il profite de cette pause pour interroger ses disciples sur une question cruciale. Qui suis-je d'après les hommes? Qui suis-je d'après les hommes? Avec tout ce que j'ai déjà fait, ça fait maintenant un an et demi, vous êtes là, avec tout ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que les foules ont compris de mon identité avec ce que vous avez déjà vu? Alors, il ne s'agit pas d'élections législatives ou présidentielles, mais Jésus fait un sondage. Vous l'aurez vu, il fait un sondage. Et quel sondage? Il s'agit de la question la plus importante. Qui est Jésus? Est-ce que c'est un super Jean-Baptiste? Est-ce que c'est un Élie métamorphosé? Est-ce que c'est un prophète supplémentaire? Veuillez cocher la case correspondante. Alors cette question, c'est le sondage le plus important qui soit, que ce soit pour l'époque comme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si on faisait ce sondage, si vous demandez autour de la Terre qui croit en un Dieu, vous aurez beaucoup, beaucoup de réponses favorables. Par contre, si vous posez la question qui reconnaît la véritable identité de Christ, alors le sondage risque d'être différent. Qui est Jésus ? Dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été une question cruciale à juste titre, car si Jésus n'est qu'un simple prophète supplémentaire ou un prédicateur talentueux, ça change pas mal de choses. Alors, qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Jésus pose la question tout en donnant un petit indice, un peu comme si Jésus voulait influencer un peu le sondage. Mais cet indice, il est subtil, le Fils de l'homme. Alors, c'est pas très clair pour son entourage de l'époque. Alors nous, pour vous qui avez lu Daniel 7 ce matin, je n'en doute pas, vous avez vu que dans Daniel 7, on voit un Fils de l'homme recevoir la souveraineté et la victoire sur bien des nations. Alors, peut-être que vous vous êtes dit ce matin, « Ah, mais Fils de l'homme, Jésus, tac, c'est bon, Jésus s'identifie à cette personne. » Mais, voilà, à l'instant T, pour les disciples, pour les pharisiens de l'époque, l'expression « Fils de l'homme », c'était pas vraiment une expression qui était couramment utilisée pour parler de l'attente messianique. Donc l'indice que donne Jésus ici, il est présent, mais il est subtil. Mais au final, ce qui compte, c'est pas le résultat du sondage dans Carpentras, dans Cavaillon, dans l'histoire sorgue ou ailleurs. C'est pas ça qui compte. Verset 15, Jésus affine la question. Mais d'après vous, à la limite, ok, les hommes, ok. Mais d'après vous, qui suis-je ? Ce qui compte, c'est notre réponse personnelle à cette question. C'est pas la moyenne ou la conclusion. Peu importe ce que croient vos parents, peu importe ce que croit votre conjoint, peu importe ce que croit votre ami d'enfance, c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Ma femme est une grande amatrice de thé. À la maison, on a plein de thé. On a une armoire, ça déborde. Donc, je vis avec les effluves de thé au quotidien. Mais pour autant, c'est pas ça qui fait de moi un amateur de thé. Il en est de même... C'est café. Mais il en est de même pour la foi. Peu importe que votre conjoint croit en Dieu, c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Simon Pierre, alors lui, il répond, « Tu es, verset 16, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Waouh, quelle affirmation! Quelle déclaration, quelle confession de foi. Jésus est plus qu'un super Jean-Baptiste, il est plus qu'un super Élie ou qu'un super prophète. Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et par cette affirmation, Pierre reconnaît, affirme donc deux choses. Tu es le Messie, premièrement. Alors le Messie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire loin de Dieu, le roi, celui qui était attendu et qui avait été promis. Et peut-être qu'à ce moment-là, Pierre, dans sa tête, il a des références de l'Ancien Testament qui lui viennent sur ce Messie qui devait venir, et là il se dit, il est enfin là. C'est pas Zoro, mais pareil, l'attente a été là, mais il est enfin là, le Messie. La deuxième affirmation, Pierre, il précise, tu es le Fils de Dieu vivant. Alors là, pour le coup, dans l'Ancien Testament, il y avait pas beaucoup de notions qui disaient que le Messie à venir ne serait également carrément le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, Dieu incarné. Et là aussi, il y a des éléments, mais c'était assez subtil. N'empêche que Pierre, waouh, il affirme ça. Alors, on voudrait féliciter Pierre. On voudrait lui féliciter pour sa compréhension, pour sa connaissance de l'Ancien Testament, sur sa lucidité, sur la pleine et réelle divinité de Jésus. On aura envie de lui dire, chapeau. Mais, verset 17, le verset suivant nous indique qu'en fait, ça vient pas de lui, mais que ça lui a été donné par le Père. On ne comprend qui est le Fils que quand le Père décide de nous le révéler. On ne comprend qui est le Fils que quand le Père décide de nous le révéler. Et c'est là qu'on voit toute la grâce de Dieu, qui attend de nous une réponse personnelle, une confession de foi individuelle, mais en même temps, qui nous donne lui-même cette révélation et qui nous donne lui-même de faire cette profession de foi. Quelle grâce de Dieu! Pas d'orgueil, pas de mérite à avoir. Grâce soit rendue au Père pour la foi qu'il nous donne dans son Fils. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais ça vient pas de vous, mais ça vient, c'est le don de Dieu. Waouh ! Alors, première partie donc, à l'image de Pierre, nous voulons être des églises qui se ressemblent. Sur quels critères? En étant des églises qui confessent le nom de Christ, qui proclament son identité, qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Deuxième partie, nous voulons être des églises qui se laissent bâtir par Dieu lui-même. Verset 18. Et je te dis, et moi je te dis, tu es Pierre, et c'est sur ce rocher que je construirai mon église. Alors les commentaires bibliques sont nombreux sur le jeu de mots autour du prénom de Pierre. Je suis pas spécialiste de grec ancien, donc je m'abstiendrai d'en rajouter une couche. Par contre, je voudrais faire simplement une remarque sur ce à quoi s'engage Christ. Je bâtirai mon église. Waouh ! Au-delà du fait, alors église, c'est la première fois, ecclésia, c'est la première fois que le mot est utilisé dans les évangiles. Donc les disciples, peut-être qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore complètement compris ce dont il allait s'avérer. Mais il est magnifique, quoi qu'il en soit, de voir que Christ s'engage lui-même à bâtir cette église. Au boulot, il y a quelques temps, on a une machine qui est tombée en panne, ça a commencé à fuir de l'eau dans tous les sens, et il y a le grand patron, avec sa belle chemise blanche, qui a remonté les manches, et qui est allé, qui s'est mis dedans, il est ressorti, il était trempé, compagnie. Eh ben, waouh! On a tous envie de lui dire, excellent! Super, bravo! Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Christ, pareil, qui décide de remonter les manches, et de s'offrir pour bâtir son église. Waouh! On a envie de dire, alléluia! Comment Christ va bâtir son église? En tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, Jésus va donner sa vie pour que même les portes du séjour des morts ne puissent rien faire. Que même la mort puisse être vaincue. Et c'est sur cette réalité-là que Christ, de ce que Christ va faire, de cette compréhension de qui il est vraiment, qui sera la pierre angulaire, le rocher, le socle, la base de l'église à venir. 1 Corinthiens 3. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quelle grâce de voir Christ s'engager lui-même dans cette tâche. Qui pouvons-nous imaginer de mieux que Christ pour faire ce travail? Vous avez vu la réponse de la suite du texte? Vous avez vu la réponse? Qui d'autre va s'engager dans cette construction? On a envie que Jésus fasse tout, hein, pareil, c'est le meilleur. Mais non, Christ décide de s'appuyer sur Pierre. Il décide de s'appuyer sur les apôtres, sur des hommes. Dans un sens, Jésus délègue son travail un petit peu. Il partage la tâche. Verset 9, « Je te donnerai les clés du royaume, et ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, etc. » Waouh, quel... C'est surprenant. Jusqu'à ce moment-là, les disciples, ils n'ont pas forcément prouvé grand-chose, hein. Ils n'ont pas montré des choses extraordinaires qui feraient que Jésus allait accepter de déléguer cette mission. Mais de nouveau, quelle grâce de voir que Dieu ne s'appuie pas sur des hommes et des femmes extraordinaires pour bâtir son Église. Dieu ne veut pas embaucher que des bacs plus 32 en théologie et en grec ancien pour construire son Église. Même Pierre, même des personnes ordinaires, comme Pierre, zélé, des personnes parfois hésitantes comme Thomas, et des personnes parfois discrètes comme Thaddée. C'est quand la dernière fois qu'on vous a parlé de Thaddée en enchère? Et bien voilà, ben lui aussi, aussi discret soit-il, aussi anonyme soit-il, Dieu, dans sa grâce, a décidé de l'impliquer dans cette mission. Waouh! La seule chose que ces personnes elles ont en commun, c'est leur foi en Dieu le Père et leur compréhension de Dieu le Fils. Pas besoin de faire bac plus 32 en théologie. Alors, chers amis de Carpentras, chers amis de l'Île-sur-Assorgue, chers Cavaillonnais, vous avez toute votre place pour participer à la vie de l'Église, pour participer à sa construction, à l'édification de l'Église locale et en général. Alors, vous aurez peut-être pas à établir la doctrine de l'Église primitive comme les premiers apôtres l'ont fait. Vous n'aurez peut-être pas à lier des choses sur la terre qui le seront au ciel. Vous n'aurez peut-être pas à rédiger des épîtres qui parcourront tout le bassin méditerranéen, mais peu importe, il y a du travail pour tous et il y a largement de quoi faire. Voilà les églises auxquelles nous voulons ressembler, voilà, nous voulons être des églises qui se laissent construire par Christ Et des églises qui s'engagent également, qui ne sont pas passives, mais des églises qui s'engagent dans cette construction de la même manière que vous vous êtes engagés les uns les autres, chacun à son échelle, et vous êtes engagés dans ce bâtiment qu'on devine ici. Troisième partie, c'est bien beau de vouloir prendre part à une construction, encore faut-il le faire à peu près correctement. Je me souviens des heures que j'ai passées avec mes filles à faire des Legos. Comment faire une tour droite? On a passé des super moments. Bon, le résultat n'était pas toujours parfaitement droit, peu importe. Et de la même manière, Pierre, il est un peu maladroit, on le voit dans ce texte. Il ne comprend pas exactement ce que Jésus va faire pour bâtir son église. Mais il n'y a pas que Pierre, hein, d'ailleurs, les autres disciples aussi. Et c'est bien pour ça que Jésus interdit à tous les disciples de dire, pour l'instant, qu'il est le Messie. Car il a bien compris que tous les disciples n'ont pas encore tout à fait compris les implications que c'est. La mission de Jésus est riche et immense. Montrer le royaume de Dieu, enseigner les foules, révéler qui est le Père, guérir les malades et montrer sa puissance. Mais est-ce seulement cela le rôle de Messie? Non, la mission du Messie ne s'arrête pas là. Jésus informe ses disciples qu'il doit monter à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort et être ressuscité. Ça, c'est du programme, hein. Pierre a du mal à le croire et se permet de reprendre un peu sèchement Jésus. Notez que cette fois-ci, Jésus lui dit que cette pensée, elle est humaine, alors que la première avait été une pensée reçue par grâce. Mais cette pensée, par contre, elle est bien humaine. Bon, Jésus, quand il dit cela, je ne pense pas qu'il se réjouisse de ce qu'il attend. Il ne se réjouit pas forcément de ce qu'il va devoir faire. Mais il sait que c'est pour cela qu'il est venu. Pour donner sa vie à notre place, pour nous permettre d'être réconciliés avec le Père, pour que l'on puisse être déclaré juste, nous qui étions injustes. Et si nous voulons être des églises fidèles à Dieu, il nous faut nous accrocher à ces vérités. Il nous faut comprendre toujours plus le rôle de Christ, le rôle du Messie venu donner sa vie. Et je me réjouis qu'on ait pu prendre ensemble la Sainte Cène, justement pour proclamer et s'approprier ces vérités les uns les autres. Les chrétiens et les églises chrétiennes ne sont pas uniquement des personnes avec des théologies nickel, avec une compréhension impeccable de qui est Christ. Ce sont aussi des personnes qui suivent l'exemple de Christ jour après jour. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Jésus conclut son intervention. Et je pousse la lecture du verset 24 au verset 27. Je pousse la lecture du verset 24 au verset 27. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Quatrième partie donc, nous voulons être des églises qui se ressemblent en étant des églises qui suivent l'exemple de Christ, qui ne se contentent pas d'avoir une belle compréhension intellectuelle de l'Évangile, mais en étant des églises qui suivent l'exemple de Christ. Nous voulons être des disciples à l'image du Maître. C'est ça le principe d'un disciple, non, si je me trompe. Un disciple qui cherche à apprendre le maître. Si demain Bernard décide de devenir un fan de Raphaël Nadal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa cravate, il va la mettre dans ses cheveux, il va se mettre au tennis, il va s'habiller comme lui, se parfumer comme lui, se tout faire comme manger comme lui. Tous les fans veulent ressembler à leur idole, et les publicitaires l'ont bien compris. C'est valable pour Raphaël Nadal, mais pour tous les autres musiciens ou artistes. En tant que chrétien, est-ce qu'on a besoin de pub pour nous donner envie de ressembler à notre idole, dans le sens notre maître? Avons-nous besoin d'être convaincus que c'est ce qu'il faut faire? Jésus nous donne en tout cas la recette. Il s'agit donc, il faut pas, pas besoin de mettre ça, mais par contre, il faut renoncer à soi-même, ne pas chercher à sauver sa vie, et ne pas chercher à gagner le monde si c'est pour perdre son âme. Voilà la recette. Faisons-nous toujours passer les intérêts du maître avant les nôtres. Quand il vous faut vous faire un choix, on en a tous des choix, des fois des petits, des grands, hein, je dis pas si c'est vrai. Mais quand il faut faire un choix, choisissons-nous toujours celui qui sert notre Dieu. Une question. Quand nous sommes face à une difficulté, quand nous sommes face à une tentation, avons-nous toujours le courage de dire non? Avons-nous toujours le courage d'oser dire non? Alors cette recette, elle n'est pas la mode, mais c'est la clé pour être des disciples à l'image du Maître. Des églises qui suivent l'exemple de Christ. C'était le défi de Pierre, de Jean, de Jude, de Thaddée et des autres apôtres et de toutes les personnes qui ont compris qui était Christ. À nous d'en faire de même aujourd'hui, à Carpentras, à l'Île-sur-la-Sorgue, à Cavaillon et dans tout le Vaucluse. Car nos églises ressembleront à Christ que si les personnes qui les composent ressemblent elles-mêmes à Christ. Une église ne peut pas être plus sainte ou plus consacrée que ne le sont les membres qui la composent. Ça sert à rien de regarder la paille qu'il y a dans nos vies d'église alors que des fois on ne voit pas la poutre qui est dans nos vies, à nous. Nos trois églises ressembleront à Christ que si nous, les uns les autres, on ressemble à notre maître, à Christ. Et que nos voisins, que nos proches, que nos familles ne voient en nous ni Raphaël Nadal, ni Kylian Mbappé, ni je ne sais quel sportive, acteur, actrice, musicien, mais qui voient en nous Jésus, Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors nos églises seront des églises qui suivent l'exemple de Christ. Et je trouve ça magnifique dans ce texte comment Jésus parle de l'église et puis enchaîne avec la vie de disciple. Voilà, les deux sont liés, c'est pas deux sujets. Il n'y a pas la vie d'église et puis ce que je vis. Non, la vie d'église est le reflet de ce que chacun on vit avec notre maître. Ma conclusion, chers frères et sœurs, sera très brève et sera dans un sens une prière, un encouragement à être toujours plus trois églises qui se ressemblent. Alors pas sur la couleur de notre site internet, pas sur le nombre de chaises ou l'orientation géographique de nos locaux, ça à la limite, peu importe, mais que l'on puisse être des églises qui se ressemblent en étant des églises qui confessent le nom de Christ, des églises qui sont construites par Christ, des églises qui comprennent le rôle de Christ et enfin des églises qui suivent l'exemple de Christ. Et comment on le deviendra? Comment nos églises deviendront ainsi? Eh bien, c'est quand chacun d'entre nous, en tant que disciples, nous serons des disciples qui confessent le nom de Christ, des disciples qui se laissent conduire par Christ, des disciples qui comprennent le rôle de Christ et enfin et surtout des disciples qui suivent l'exemple de leur maître. Que ce beau texte de Matthieu 16 nous accompagne et nous guide. Amen. Éternel, Père Céleste, nous te bénissons, car c'est toi qui as imaginé tout cela, c'est toi qui as l'origine de tout cela, et merci parce que tu as voulu te faire un peuple nombreux qui te sert, qui travaille à ta gloire, et qui te chante et qui te célèbre. Et Seigneur, pour cela, voilà, tu as, dès aujourd'hui, en attendant ce jour où nous serons tous rassemblés directement autour de toi, dès aujourd'hui, tu nous rassembles, tu as envoyé ton Fils unique, en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu vivant, justement pour bâtir ton Église par ta mort et ta résurrection, par cette vie nouvelle que tu nous offres, par cet Esprit dont tu nous fais bénéficier. Et aujourd'hui, nous voulons être des Églises qui te ressemblent, qui te sont fidèles, qui travaillent voilà à tes intérêts et pour toi jour après jour. Seigneur, montre-nous comment dans nos églises, effectivement, toujours plus être fidèles. Montre-nous dans nos vies individuelles, les uns les autres, en tant que disciples, quels sont les choix à faire, quels sont les... Et quand est-ce qu'il nous faut dire oui, quand est-ce qu'il faut nous dire non. Seigneur, consacre-nous toujours plus, transforme nos vies individuels les uns des autres. Et nous nous réjouirons alors de voir le beau travail que tu feras, Seigneur, dans nos trois églises. À toi soit la gloire, Père Céleste, au siècle des siècles. Amen.